Ben écoutez, on est ravis de vous accueillir ici. Nous allons avoir une rencontre avec Marianne Wourche que va présenter et animer Brigitte Gavignon aujourd'hui. Brigitte, je te passe le micro. Oui.
Bon, bonjour à tous. Alors, je redis la même chose. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on reçoit Marianne Wourche. C'est exceptionnel parce que pour la première fois de toutes ces rencontres, nous aurons en plus de la musique. On a l'auteur et on aura de la musique. Alors Marianne, j'en ai un long comme ça, mais je vais aller vite. Elle est auteure, elle est conférencière musicale, elle est créatrice des concerts du mercredi au couvent des Bernardins à Paris. Elle organise des concerts avec les grandes institutions que sont le musée d'Orsay, l'Orangerie, le Grand Palais, en relation avec des expositions. Donc à chaque fois, c'est quelque chose de nouveau, d'inédit. Et puis, elle est productrice des histoires de musique sur France Musique, qui ont été la source de nombreux podcasts. Elle, en 2020, suite au confinement, il n'y a plus de concerts, il n'y a plus rien, donc elle crée les éditions Villanelle, qui leur permet de publier, entre autres, parce que vous voyez là une petite partie de sa production, elle va pouvoir publier dans cette maison d'édition qu'elle a créée, le journal intime, alors on devrait dire les journaux intimes de différents personnages. Elle a commencé avec Mozart, ensuite il y a La Calasse, il vient de paraître Nourieff, et bientôt il y aura un Bach qui va sortir, et chaque fois, ça devient aussi des podcasts. Donc elle publie de nombreux ouvrages, là vous allez, La Fontaine, Tchaïkovski, Vivaldi, et en été à l'Île-Dieu, elle organise des concerts chez elle. Donc, il y en a qui reçoivent, d'autres qui ne reçoivent pas. C'est les aléas de l'Île-Dieu, mais n'hésitez pas à redonner vos noms à Marianne pour qu'elle puisse vous inscrire sur sa liste. Donc, le parcours de Marianne, c'est un parcours qu'elle dessine avec une passion folle, où elle retrouve des destins exceptionnels, comme ce Nourieff, dont elle va vous parler, sachant qu'il est né en 1938 dans un train, le Transsibérien, pas loin du lac Baïkal, ce qui est déjà un parcours incroyable. Il est arrivé en France et il est mort en 93. Un dernier petit mot, les podcasts que Marianne crée sur France Musique font 30% de toutes les audiences de France Musique et arrivent largement en tête des autres. Donc c'est quand même sur France Musique un signe d'une extrême qualité et d'une extrême vivacité et d'une passion qu'elle sait nous faire partager. Donc maintenant, j'espère que je n'ai pas été trop longue, je lui laisse la place pour Nourieff.
Merci Brigitte. Bonjour, c'est toujours pour moi une grande joie de vous retrouver et de vous partager effectivement ce qui m'habite depuis un certain nombre d'années. Et tout ce qu'a cité Brigitte, en fait, est cousu de ce même fil depuis 25 ans. À savoir le désir de transmettre, de partager, ce qui relie la musique à l'histoire des hommes et l'histoire des arts. Aucune composition musicale n'est apparue comme cela, finalement, sans avoir une raison d'être. Et cette raison d'être, pour moi, elle est fondamentale. Elle est fondamentale parce que c'est ce qui, justement, fait qu'aujourd'hui, vous y trouvez, vous aussi, une raison. Et cette raison, c'est cette vie qui fait qu'elle ne peut pas s'arrêter. Et c'est ce qui est, pour moi, extrêmement important d'expliquer, de montrer, de susciter chez chacun d'entre vous, et bien sûr, et surtout, dans la jeunesse. Parce que Ce socle de culture, eh bien, c'est ce sur quoi on s'appuie pour ensuite se déployer, d'où que l'on vienne, qui que l'on soit. Et c'est pour cela que j'ai créé ces concerts du mercredi, puis ensuite les concerts dans les expositions. Tout est lié, nous sommes tous liés, et cette musique, ce langage universel, eh bien, a toute sa raison d'être, et pour encore des siècles. Et c'est pour cela que je prends ce temps et tout cet amour absolu pour vous le faire partager. La série du journal intime, comment est-elle née? Eh bien, tout d'abord avec les éditions Belin qui m'ont demandé d'écrire le journal intime de Mozart. Et je dois dire que lorsque cela m'a été donné, malgré tout ce que j'avais pu faire auparavant, j'ai été extrêmement intimidée parce que je me suis dit que c'était quand même un peu osé d'écrire le « je » de Mozart. Puisqu'un journal intime, pour tous ceux qui en ont sans doute écrit ou qui poursuivent l'écriture d'un journal, eh bien c'est ce « je » qui est très puissant. Et de le prendre... est-ce que j'allais le voler ? Est-ce que j'allais mentir ? Donc ça m'a un petit peu fait peur et j'ai d'abord dit non. Et puis ensuite, j'ai réfléchi et puis je me suis dit, mais non, peut-être que je peux dire, en tous les cas, voilà, transmettre à nouveau ce « je » de Mozart. Et c'est comme ça que cette aventure d'écriture est née. Et justement, en écrivant, nous étions en mars 2020, donc tous dans nos vies particulières. Et plus je l'écrivais, plus je l'entendais, évidemment. On entend Mozart quand on le cite, quand on l'écrit. Et c'est comme cela que j'ai écrit à la présidence de Radio France en disant « Mais cela pourrait faire un podcast absolument fabuleux. » Et l'idée a tout de suite été adoptée par la chaîne aussi, bien sûr, de France Musique. Et j'ai donc fini d'écrire ce podcast, sachant que le désir était qu'il soit lu par un comédien, non pas moi, là pour le coup il fallait que je m'arrête, et donc je propose des voix. Et chaque réflexion, chaque recherche d'une voix, eh bien, est aussi une démarche un petit peu particulière dans la fabrication d'un podcast. Donc je crois qu'avant qu'on se lance dans le Nourieff, je vais aussi un petit peu vous décrire les secrets ou en tous les cas les petits mécanismes de fabrication. Bien sûr l'écriture elle ne peut naître qu'après un certain travail de recherche, mais comme je vous le disais, ces recherches, elles sont aussi, bien sûr, dans une connaissance brute des faits, des êtres qui ont pu vivre, travailler avec ces compositeurs, mais il y a aussi une part de silence entre ce qui est dit ou écrit par le compositeur, et puis ensuite par la musique qu'il écrit. Et cette zone de silence, c'est cette zone-là, moi, qui me fascine, parce que on peut tous dire des choses, on a tous notre perception, les proches comme les moins proches, et on a tous un désir de s'accaparer un petit peu, hein, une petite part du rayon de soleil. Et dans ce silence, c'est là que j'essaye de mettre ce fameux jeu. Et une fois que le texte, le ton, la vérité surtout, et cette vérité, elle ne peut exister que lorsqu'elle est reliée à une profonde humilité. Rien de moi ne doit transparaître dans cette écriture. Sauf, et je le confesse, mais c'est inévitable parce que ce sont aussi les conditions d'écriture d'un podcast, c'est que ce doit être court. Il y a un certain nombre de chapitres qui font un certain nombre de minutes que je n'ai pas le droit de dépasser. Donc ça veut dire un certain nombre de mots. Et par conséquent, un choix épouvantable à faire parmi ces carrières qui sont, vous le devinez, absolument fulgurantes, extrêmement riches. Et c'est là que j'ai cette subjectivité, ce choix personnel pour que ce fil de vie puisse se dérouler vite, mais qu'il vous permette à vous de saisir beaucoup plus. Derrière chaque mot, derrière chaque choix musical, il y a normalement une intention qui doit vous conduire beaucoup plus loin. Donc ça, c'est le travail de recherche, d'assimilation, voilà, d'un cheminement intérieur, puis l'écriture du jeu. Une fois que le texte est écrit, en même temps, je me dis, tiens, qui pourrait le lire ? Alors pour Mozart, c'était finalement assez facile, parce que je connais bien le comédien Nicolas Vaude. Et Nicolas Vaude a cette truculence, il est pétillant. Et donc pour moi, c'était un Mozart absolu, parce qu'il y avait aussi ce côté sombre. Donc Nicolas a lu le premier podcast. Donc il y a les séances d'enregistrement. On fait évidemment beaucoup de prises pour saisir, encore une fois, cette même continuité. Parce que lire un journal intime, le journal commence évidemment dans l'enfance et puis... il va jusqu'au bout. Alors évidemment, il n'écrit pas sa mort. Donc, il va en tous les cas le plus loin possible. Donc, de la même façon, cette lecture Nicolas me disait, mais est-ce que c'est Mozart qui lit son journal à l'âge adulte et découvre, il relit sa vie, ou est-ce que... Je dis, non, tu es l'enfant Mozart, l'adolescent Mozart, le jeune adulte, et puis... Et puis après, il y a, pour tous les podcasts, le travail des recherches de sons, des musiques, qui viennent vraiment se coudre comme de la dentelle, et ça c'est le travail que je fais avec ma réalisatrice, mais en amont de ce travail, il y a donc toutes les recherches de sons que je pressens pouvoir s'insérer, vous laisser dans une certaine attente, dans une certaine même réflexion. Et puis ensuite, il y a la partie des bruits, la sonorisation, puisque finalement, un podcast, c'est un peu comme un film sonore. C'est-à-dire que l'objectif, c'est non seulement de vous emmener dans la vie de Mozart, mais aussi dans le cadre de vie dans lequel il vivait. Les voyages, les chevaux, les calèches, etc. Donc ça se décline, ce travail de recherche. Je le donne ensuite à la réalisatrice, et avec elle, on fait tout le travail de montage. Ça a été pareil pour Maria Callas. Alors, Maria Callas, de la même façon, la question de la voix s'est posée. Alors... au début, on me disait Monica Bellucci, etc. Puis en plus, elle faisait un projet Callas en même temps. Et moi, je trouvais que la voix de Monica Bellucci était trop sensuelle. Alors que plus j'écoutais Maria Callas, plus elle avait cette voix très, très vibrante, très, très placée. C'est une chanteuse avec un tempérament, une certaine forme d'humour d'ailleurs, une façon de poser ses fins de phrases que je trouvais assez piquante. Et finalement, dans le panorama des comédiennes françaises, il n'y en avait pas tant que ça, qui avait une voix, avec un port de voix. Et Carole Bouquet m'a semblé celle qui pouvait incarner Maria Callas. Après, je laisse à chacun de ressentir, de trouver si le choix est judicieux ou pas. Après, c'est personnel. Mais je dois dire que c'était une très belle aventure, intéressante, de partager ces heures de travail avec Carole Bouquet en studio, qui nous a donc donné Maria Callas. Pour Rudolf Nureyev, c'était très compliqué. C'était très compliqué parce que chez Rudolf Nureyev, il y a beaucoup de sensualité, beaucoup, presque de violence. Il est à la fois extrêmement viril, mais il y a vraiment chez lui une part de féminité extraordinaire. Il y a aussi toute la sensualité de son accent russe. Et il y a vraiment, vraiment tous ces silences. Donc la recherche était complexe. Fallait-il aller vers... ou au contraire chercher un accent. Bref, c'était une recherche. Et puis soudain, je me suis dit, mais... Là encore, la voix. Parce que la puissance de la voix... est absolument phénoménale. Et même si elle n'est pas collée, cette puissance réussit à vous emporter et à vous faire naviguer dans ses destins. Et Lambert Wilson est apparu comme une évidence. Parce qu'il a une voix tellement extraordinaire, c'est tellement un comédien époustouflant que lorsqu'on... s'est retrouvé en studio. Là, c'était vraiment fabuleux. Alors, ils sont quand même tous un peu terribles, parce que moi, j'y vais sur la pointe des pieds en disant, est-ce que vous voulez qu'on se retrouve un petit peu avant pour en parler? Et là, je sens toujours, non. Bon, très bien. Et alors, Lambert Wilson, c'est un comédien, c'est un chanteur. Il fait de la comédie musicale. Enfin, il est vraiment un artiste complet. Et je savais qu'il avait un rapport à la danse très étroit, donc je ne prenais pas tellement de risques. Et puis en plus, il habitait Voltaire comme Nureyev habitait dans ses dernières années. Donc bon, il y avait un certain nombre de paramètres. Mais je dois dire qu'en studio, à chaque fois qu'il s'arrêtait, je lui filais vraiment, véritablement, des éléments de vie de Nureyev, entre autres l'extraordinaire relation avec le danseur Eric Brune, et que Lambert n'avait pas saisi comme étant si forte et si fondamentale dans la vie de Nureyev. Et après, il revenait en studio en me disant « Mais alors, il a vraiment été amoureux ?» Et donc, voilà. Et tous ces petits moments de partage ont fait qu'en un éclair, Lambert Wilson a littéralement transcendé et parfaitement incarné ce texte. Et donc, je crois pouvoir dire que c'est vraiment une très très belle réussite. Et pour finir, effectivement, le journal intime de Jean-Sébastien Bach sera lu par Denis Podalydès. Donc c'est évidemment une très grande chance, sachant que je crois qu'il a aimé le texte. Donc j'attends avec impatience le partage en studio. Nous allons nous lancer dans ce destin exceptionnel, parce que si je fais ces choix de ces destins, pour revenir à cette notion de partage, c'est que je crois que pour la jeunesse, puisque c'est quand même... Alors vous êtes là, mais j'ai vu qu'il y avait des petits, et puis je sais que vous avez des enfants, des petits-enfants, donc le mot passera. Mais c'est pour moi absolument, absolument fondamental que la jeunesse ait des phares de destin, de ce qui est possible de faire, d'avoir des horizons extrêmement vastes et qui ne s'acquièrent pas juste par un tweet, un like, quelque chose de rapide. Parce que lorsqu'on croise ces destins, le dénominateur commun absolu, c'est le travail. C'est stupéfiant. C'est dit, lançons-nous.
Dick, es-tu heureux ? Je ne peux pas rester une semaine sans pratiquer mes exercices.
Si je ne prends pas, alors je reste... comme je suis hier, et c'est déjà pas bien. Il faut toujours mieux.
Clara ne doit pas venir me voir. Le KGB l'a sauvée. Je suis seul dans cet appartement rue Guinemer. Je n'ai plus rien. Je n'ai même pas ma valise, mais je vais bien. C'est un peu comme si j'avais déjà écrit cette histoire. Mon histoire. J'ai 23 ans. Alexandre Pouchkine a écrit dans son Eugène Onieguine qu'il est un éternel errant, un voyageur insatisfait d'une contrée à une autre. Avant de me coucher, je me remémore ce vers. Il erre de par le monde, sa lyre derrière lui. Suis-je Onieguine ? J'ai très bien dormi. J'ouvre les volets. Et je regarde le jardin du Luxembourg par la fenêtre. Tout est calme, paisible. Je repense à ma mère. Ils m'ont forcé à choisir. Je ne la verrai plus, ni mon pays. Il faut que je travaille. Il faut que je travaille. Je vais devenir fou. Tout ce marbre dans cet appartement, j'ai froid. Je veux des vêtements en laine. Clara se moque de moi. Je ne suis pas hypersensible, je suis un danseur. Mes jambes ne peuvent pas être raidies par le froid. Ma mère partait le matin seule dans la neige. Je la voyais quand le jour était à peine levé. J'entendais ses pas crisser. Je me recroquevillais de froid dans mon lit. Clara fait tout ce qu'elle peut pour moi. Elle a surtout compris que je dois me remettre au travail au plus vite. Sinon, je ne serai jamais heureux. Alors, elle a demandé à Raimondo de venir me voir, dès que possible. Raimondo de la Reine dirige la compagnie de ballet du Marquis de Cuevas. C'est Pierre qui me l'a présenté lors d'un dîner dans son appartement de la rue des Saints-Pères. Je n'avais pas du tout aimé les décors et les costumes étranges chargés de plumes de son spectacle La Belle au bois dormant. Mais j'ai aimé son appartement. Les murs couverts de velours rouge, d'élégants meubles 18e qui le décorent sobrement. Raimondo m'a semblé raffiné et courtois.
Alors je vous ai fait plonger. Je vous ai fait plonger, c'était pas très drôle de commencer par le chapitre 1. Je vous ai fait plonger parce que, à ce moment-là, vous l'avez sans doute compris, Rudolf Nureyev a franchi la douane, enfin, pardon, ne l'a pas franchi, J'étais dans cette image du sceau. Il a franchi, il a passé cette porte du commissariat. Il a pris sa décision de rester et de ne pas obéir au KGB, à l'aéroport du Bourget. Nous sommes donc en juin 1961. Ça n'était pas un choix politique que de rester. On l'a forcé, comme il le dit, parce qu'il était trop indépendant, trop autonome. Et lors de cette fameuse tournée du Kirov à Paris d'abord, qui devait ensuite partir à Londres, Rudolf Nureyev a fait preuve d'une liberté, d'une curiosité. Il allait au musée du Louvre, il allait au Lido, il est allé écouter Yehudi Menuhin Salpleyel. Il faisait absolument ce qu'il voulait. Et évidemment, le KGB l'observait et devenait fou parce qu'il était absolument incontrôlable. Et il fallait donc prendre une décision. Mais c'était très délicat parce que Rudolf Nureyev avait emporté un succès stupéfiant lors de son intervention au Théâtre des Champs-Élysées. Ça n'était pas prévu qu'il parte parce qu'il n'était pas marié. Et pour toute cette époque soviétique, il fallait être garanti, justement, qu'ils aient besoin de rentrer chez eux et qu'ils ne représentent pas un danger de fuite pour les autorités. Mais lors de la préparation de cette tournée, l'assistante d'un impresario français était à Moscou, pardon, à Saint-Pétersbourg, et regardait tous les ballets. Et puis, elle savait, elle avait vu son nom, et s'étonnait de ne pas l'avoir vu danser. Parce qu'en fait, on ne l'avait pas présenté, on ne voulait pas qu'elle voie Nureyev. Là-bas, ils étaient très conscients qu'il détenait une pépite, et donc ils ne l'avaient pas présenté. Et elle dit, mais moi, je voudrais voir ce jeune danseur, pourquoi vous ne me le présentez pas? Et elle assiste à une représentation, et là, elle est absolument stupéfaite. Elle dit, mais attendez, moi, je veux Nureyev, sinon la tournée n'aura pas lieu. Donc, ils sont piégés. Le KGB est piégé, les autorités sont piégées. Et c'est comme cela que Nureyev s'embarque pour cette fameuse tournée. Il n'est pas choisi pour le jour de la première. Ça le met dans une furie, dans une rage absolue. Mais sa décision est prise. Le monde entier se souviendra de moi. Et le fait est que lorsqu'il entre en scène, le public parisien est stupéfait. On n'a jamais vu cela depuis les ballets russes, avec Nijinsky, qui était celui qui faisait ses sauts extraordinaires, fulgurants sur scène. Et le public donc, parisien a oublié cela. Le ballet français, la situation du ballet en France est un peu périclitante. Et donc, c'est une piqûre qui s'opère. Et puis, on n'a jamais vu cela. Pourquoi ? Parce que Nureyev arrive et il regarde. Il plante son regard dans le public. Ça ne s'est jamais vu. Donc, il va saisir les émotions de chacun. Il empoigne finalement chacun. Et ça, c'est quelque chose que l'on retrouve aussi chez Maria Callas. Justement, pourquoi ces gens, pourquoi ces artistes nous épinglent, nous harponnent littéralement ? Pourquoi d'un seul coup, il se passe quelque chose qu'il ne se passe pas avec les autres? Eh bien, cette façon d'être totalement habité et de vous fusiller du talent qui fait que vous ne vous appartenez plus. Et Nureyev est arrivé sur scène et a vraiment tel un toréador. D'ailleurs, on le comparait à un toréador parce qu'il avait cette même façon de pointer, de harponner son public et de ne pas vous laisser le temps de respirer, le temps de vous remettre de vos émotions. Vous étiez emporté, le public parisien l'a senti, plus rien, tout était lâché. Et c'est ce qui a fait ce succès inattendu qui a beaucoup contrarié les danseurs français, parce qu'évidemment, il y avait une part de liberté. Pour faire tout cela, il faut beaucoup de liberté. Pour dépasser les conventions, pour dépasser les habitudes, la bien-pensance, il faut affronter. Et donc, il faut être libre. Et Nourieff a pris la liberté d'aller chercher une variation dans Don Quichotte, de changer un peu des tempi, à savoir qu'il se fâchait même avec le chef d'orchestre, parce que pour donner cette impression de lévitation dans ses sauts, c'est-à-dire que vous aviez vraiment l'impression d'une réalité d'un saut suspendu, eh bien, il demandait à l'orchestre de ralentir le tempo de façon à donner cette impression d'élévation qui ne s'interromprait pas. Donc, évidemment, dans les coulisses, ils sont tous très énervés. Le public n'y voit, pardon, mais rien. Et il a gagné. Il a gagné. J'ai donc choisi ce moment du lendemain de cette très grande décision, puisque il a fait ce choix au risque de ne plus revoir sa famille. On est tous au courant des conditions qui étaient imposées par le KGB. Et puis, ce travail qui l'habite, malgré cette décision, malgré cette nouvelle vie qui s'ouvre à lui. Cette liberté, il l'a prise, mais elle n'est pas si étrangère. Enfin, elle est presque évidente quand on commence à connaître Rudolf Nureyev. Son enfance, il la passe à Oufa, dans le nord, en Bachkirie de la Russie. Ses parents sont musulmans. Son père est un militaire qui sert l'armée. Il naît en 38, donc on est vraiment le début de la Seconde Guerre mondiale. Et donc le père a cette mission de former les soldats. Donc il n'est pas là. Quand lors de la naissance dans ce train sibérien, en fait, sa mère décide d'aller rejoindre son père, et donc a lieu cette naissance. Ce train, cette naissance dans le train, c'est toute la vie de Nureyev. Pour lui, c'est un symbole absolu de cette errance dans sa vie qui va le poursuivre jusqu'au bout. Donc un enfant qui naît dans un train, qui ensuite va vivre dans une isba, dans des conditions extrêmement pauvres, où ils sont plusieurs à partager une couche de paille, la mère, comme vous l'entendiez évoquer, qui parle au matin dans la neige. Il y a une anecdote où elle se fait entourer de pères d'yeux jaunes qui sont des loups. C'est une vie extrêmement difficile. Mais déjà, et c'est en cela que l'Union soviétique a quelque chose de fascinant, on le sait, on était au courant avec les gymnastes, on le sait aussi avec les musiciens, il y avait cette présence artistique très forte. Et Rudolf Nureyev a très envie de danser, mais la danse folklorique. Et donc il va faire partie d'un groupe et danser. C'est vraiment, il sent que c'est ce qu'il habite, c'est ce qu'il veut faire, il s'enfuit, il y va. Mais ce qui est en train de se passer, dont il n'est évidemment pas conscient, c'est qu'il est en train de muscler son corps de manière très particulière et qui va être pour lui très compliqué ensuite. Parce que c'est une musculature de gymnaste quasiment, avec des mollets très galbés. En plus, il n'est pas très grand. Donc il n'est pas du tout en train de former son corps pour être un danseur classique. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'il acquiert avec ses danses folkloriques une notion du rythme très particulière, une décomposition très... plutôt que d'être dans une pulsation très classique, en fait, il découpe tout. Alors, si je vous dis ça, c'est parce que je conversais avec Charles Jude, qui est vraiment le fils spirituel de Rudolf Nureyev, et il m'expliquait que ce qui était extraordinaire, mais en même temps très très compliqué pour danser avec Rudolf Nureyev, c'est que justement cette formation de la décomposition du temps faisait qu'il voulait mettre un pas nouveau sur chaque temps. Et donc les chorégraphies, tout ce que Rudolf Nureyev voulait créer comme chorégraphie, c'était excessivement compliqué parce qu'il y avait une multitude de pas et à chaque fois il fallait lui dire « Non mais faisons un tout petit peu moins, ça restera très très bien ». Donc c'est ce groupe de danse folklorique, c'est toute son enfance. Quand le père revient et qu'il découvre, Rudolf a déjà 7-8 ans, que son fils veut être danseur, vous imaginez la scène. C'est fracassant. Son père voudrait plutôt qu'il fasse de l'accordéon, il peut le mettre sur le dos et c'est pas très compliqué. ça coûte pas très cher. Et puis, il pourra rester le digne fils de son père. Et là, Rudolphe s'oppose au père. Et c'est déjà là où pointe cette volonté absolue de vivre, son choix, son désir, sa liberté. Jusqu'à la rencontre avec des professeurs, puisque là-bas, en Bachkirie, venaient des danseurs du Bolchoï, du Kirov, donner des cours. On invitait même les troupes, donc c'était même une chance absolue pour les jeunes de découvrir tous ces danseurs. Et c'est comme ça que Rudolf Nureyev découvre ces danseurs, se dit « moi aussi, je veux être un danseur ». Il passe les auditions, il finit par obtenir une bourse, et à 17 ans, il prend le train et décide d'aller à l'Académie Vaganova à Saint-Pétersbourg. C'est 16 heures de train, avec 3 petits sous dans la poche. Il part, et lorsqu'il arrive à cette fameuse l'Académie Vaganova, qui est à 2 pas du Kirov, il frappe, on est au mois d'août, et en fait, il est une semaine trop tôt pour les auditions. Tant pis, il va trouver un endroit où dormir chez une personne, professeur qu'il connaissait, qui avait sa fille, etc. Donc finalement, tout s'organise bien. Et puis, il revient une semaine plus tard, il passe l'audition et le professeur lui dit soit tu deviendras exceptionnel, soit tu resteras dans la rue. Et là, il va s'accrocher. Parce que c'est là qu'il réalise qu'il est très, très en retard. Tous les autres danseurs sont plus jeunes, ont une formation de ballet, de danseur classique, ce qu'il n'a pas, et il va faire preuve d'une détermination sans faille, jusqu'à vouloir changer de classe, parce qu'on l'avait mis dans une classe avec un professeur qui était le directeur de l'académie, qui était un homme extrêmement rigide, extrêmement autoritaire, et qui faisait preuve en plus de ça d'un peu de cynisme, et qui humiliait Nureyev. Et Nureyev n'hésite pas à littéralement faire un scandale. Représentez-vous quand même, on est en pleine guerre, en Union soviétique, contredire la parole du directeur de l'Académie Vaganova à 17 ans, fallait pas trop oser. Et il le fait, parce qu'il sait que le seul qui va pouvoir le conduire vers les sommets, c'est Pushkin. Le professeur Pushkin, qui a une classe, et cet homme-là, c'est son père. Il va devenir son père, son mentor. C'est un homme très calme et qui a une formation absolument extraordinaire, à savoir qu'il laisse chaque danseur créer sa propre ligne, sa propre pensée musicale et chorégraphique. Pour Nureyev, c'est extraordinaire. Et là, commence vraiment sa vie. Et il ne cesse de travailler. Pushkin a compris le personnage de Nureyev, parce que Nureyev est impulsif. Il se fâche, il se met en colère, il lance les objets, et ça va malheureusement lui jouer des tours, parce que ce que les gens retiendront beaucoup de lui, c'est ce tempérament de feu et un petit peu incontrôlable, mais Pushkin l'a compris. Et il lui disait tout simplement « Rudolphe, Rudolphik, va faire 2-3 pirouettes et reviens, ça ira mieux après. » Et ça, c'était juste tellement fin, parce que Rudolf Nureyev a par conséquent pu totalement être libre, mais en même temps, dans cette discipline absolue. Il va au musée. Il ne cesse d'aller visiter les musées, d'aller consulter les revues. La bibliothèque de l'Académie était pleine de magazines qui relataient ce qui se passait en Europe, en Angleterre, aux États-Unis, qui étaient tous les grands danseurs, toutes les chorégraphies qui avaient lieu, qui étaient les chorégraphes. Donc il ne cessait d'aller compulser tous ces magazines. Il partait à Moscou, au Bolchoï, pour aller voir les tournées avec les troupes étrangères. Et c'est comme ça qu'il découvre justement d'autres techniques. Et ce qui est extraordinaire, et c'est là aussi toute son intelligence, et ce qui va subjuguer le public parisien lorsqu'ils vont le découvrir, je vous l'ai dit, Rudolf n'aime pas son corps. Trop petit, trop musclé, trop massif. Et quand il découvre les ballerines et ce travail sur les pointes et les arabesques, les arrondis, les portées de bras, en fait, ce qu'il se dit, c'est comme ça que je veux danser. C'est comme elle. Et ça, c'est la clé de tout, puisqu'en fait, il va s'approprier la féminité des ballerines en étant lui-même, avec toute sa force, son énergie et cet assemblage de ces forces féminines, masculines, ce mariage fait de Rudolf Nureyev le personnage qui nous a tous fascinés. Donc quand il arrive à Paris, le regard qui d'un seul coup nous saisit, des photos nous montrent que lorsqu'il, normalement, un homme danse sur les demi-pointes, ils n'ont d'ailleurs pas les mêmes chaussons, et ils sont sur les demi-pointes. Vous voyez, les pieds de Nureyev, ils sont sur les pointes. Donc c'est absolument fabuleux. Et donc il transforme les rôles. Il décide de donner beaucoup plus de chair, beaucoup plus de contenu. Et j'en arrive à cette transformation, là encore, du rôle de l'homme. Parce qu'il va aussi se dire, mais l'homme, là, il ne fait que porter, on peut faire autre chose. Et là, il le découvre parce que quand il arrive en France, en fait, à Paris, ils ne peuvent pas trop le garder dans la troupe de l'Opéra de Paris parce qu'il y a des questions de politique très compliquées, enfin impossibles. Il faut respecter certaines diplomaties. Et donc, il va être invité à danser avec la troupe du marquis de Cuevas. C'est comme cela qu'il peut tout de suite commencer à danser. Mais en fait, il veut tout très vite partir. Il veut aller en Angleterre. Il veut surtout aller rencontrer Éric Brune, qu'il avait découvert à Moscou, qui lui, donc, est un Scandinave, est un Danois, un danseur danois, qui lui a appris à danser avec la technique de Burnonville. Burnonville, c'est un Français. En Russie, ils avaient notre petit pas. Ça va être aussi le désir de Rudolf Nureyev, c'est de redonner à la France ce qu'elle possédait de technique et de prestige grâce à Petit Pas, Marius Petit Pas. Mais la technique Burnonville développée au Danemark, que Éric Brune incarne, est très intéressante pour Rudolf parce que il y a une légèreté, à nouveau, je vous dis, il a des obsessions, mais des obsessions qui vont devenir des forces absolues. On le sait bien, hein, quand on a un point de faiblesse, si on s'attaque dessus, on transforme et ça devient une force magistrale. Eh bien, Rudolf a compris très vite ses faiblesses, et cette technique-là l'intéresse particulièrement pour deux raisons. La première, c'est que il saute très légèrement. J'espère que maintenant vous allez observer les danseurs dans leur façon d'aller prendre. Le danseur russe, dans la technique de petits pas, telle que Rudolf l'avait appris, va chercher son saut très profondément. Il faut un grand plié pour vraiment se propulser en l'air et redescendre. Il y a vraiment quelque chose de... On sent toute cette force de propulsion. Donc, Rudolf Nureyev est formé à cette école, a bien compris qu'il pouvait faire autrement. Il est, je vous le répète, omnibulé par ce côté un peu trop camionneur. Et donc Burnonville, au contraire, apprend à rebondir extrêmement rapidement sur scène. C'est un tout petit toucher, hop, très léger, très rapide, plein de petits pas. Et ça, il veut apprendre cela. Donc il veut aller rencontrer Éric Brune pour cela. Et la deuxième chose, c'est ce fameux rôle des hommes. Il est déjà inspiré par les femmes, par ce qu'elles peuvent faire avec leur corps, ce qui veut bien évidemment dire qu'il veut aussi danser ce qu'elles dansent. Alors, ce n'est pas tout à fait possible, mais en tous les cas, il veut aller beaucoup plus loin dans les rôles des hommes, beaucoup plus loin que juste, comme je le disais, porter en avant, en arrière, permettre les tours, etc. Donc là aussi, cette technique Burnonville donne au rôle de l'homme une force beaucoup plus importante, et c'est ce qu'il souhaite. Éric Brune va devenir le compagnon de vie de Rudolf Nureyev. Les voir danser ensemble, c'est absolument extraordinaire. Ils s'observent, ils se regardent, chacun avec une complémentarité magistrale, et ce sera vraiment une présence merveilleuse, mais aussi très douloureuse dans la vie de Rodolphe Nureyev. Après Eric Brun, il ne sera plus possible pour lui d'aimer vraiment. Mais je vous propose de repartir dans le podcast.
C'est... Je rentre de chez Lee. J'ai passé quelques jours dans sa maison de campagne. Lee, Radzi Will et sa sœur Jacqueline Kennedy sont toutes les deux folles de moi. Jackie sera certainement jalouse. Je l'appellerai quand je serai à New York. Lee n'est pas simplement une femme du monde. Elle est brillante et belle. Elle sait s'entourer de personnes de qualité. Son jeune décorateur a magnifiquement décoré ses intérieurs. Le cuir de cordoue au mur est une idée magnifique. Je lui demanderai si l'on peut travailler ensemble pour mes futurs décors de ballet. Nous avions fabriqué un décor pour le spectacle que nous faisions avec mes camarades de mon groupe de danse. Nous avions accroché un tissu typique de chez nous, avec de grosses fleurs dans de belles couleurs, rouge et bleu. Je l'aimais beaucoup, ce tissu. Ma mère en avait de semblables, qu'elle utilisait comme des coussins et des couvertures. 9 février 1965. Nous venons de danser Roméo et Juliette avec Margot. 40 minutes d'applaudissements. Malgré ma blessure à la jambe, le Times a écrit que je danse mieux sur un pied que certains sur deux. Lee était là. Elle vient souvent me voir travailler et assister à mes représentations. Nous sommes allés regarder les vitrines des antiquaires de tissus orientaux. J'aime marcher avec elle la nuit après avoir dansé. Je vis dans les théâtres, les aéroports, les gares. Je n'appartiens à aucun lieu. Je danse tous les jours dans le monde entier. Le soir, je suis seul. Je vais dans les bars, les clubs. Je marche dans la rue. Je fais des rencontres. Je les oublie aussitôt. Le désir de mon corps s'impose à moi. Je n'y refuse rien. Mais... je ne peux plus investir mes sentiments.
Dans cet extrait, vous découvrez Margot Fontaine. Les deux personnages de la vie de Rodolphe, c'est Eric Brun, Margot Fontaine. Margot Fontaine était cette ballerine britannique qui, lorsqu'elle a rencontré, qu'elle a accepté de danser avec Rodolphe Nureyev, quand il est arrivé, elle l'a invité, un petit peu forcé, et puis elle a on lui a dit, tu sais, Margot, elle était déjà à la fin de sa carrière, et on lui a dit, tu sais, Margot, tu ne devrais sans doute pas refuser de danser avec lui. Et elle a été très fine, et elle a dit oui, mais elle avait presque une vingtaine d'années de plus que lui. Donc, c'était un défi pour elle. Elle est-elle y arrivée physiquement, mais aussi dans sa réputation. Et ça a été une seconde carrière pour elle. Pour eux deux, c'est le couple le plus merveilleux du monde de la danse qui ait pu exister. Ils se sont aimés, mais n'allaient pas chercher plus loin. Ils incarnaient tous les rôles qui leur étaient offerts de danser. Ça a été absolument merveilleux. Elle prenait tout de lui. Et elle savait, elle aussi, reconnaître quand Rodolphe Nureyev dépassait un peu les limites. Et lui, il était tellement admiratif qu'il la respectait profondément. Donc Margot Fontaine, le personnage, le grand personnage de la vie de Rodolphe, Eric Brun. Et puis vous découvrez aussi ce très grand sens esthétique qu'avait Rodolphe Nureyev. Il collectionnait les tapis, les œuvres d'art, les maisons en Italie, à Saint-Barthélemy, un ranch aux États-Unis, un appartement au Dakota, à New York, l'appartement du Quai Voltaire, allez voir les photos de cet appartement, la décoration, mais dans les détails les plus infinis, des matières, des objets. C'est une quintessence de ce que l'on peut faire. Vous pouvez juger cela chargé, mais c'est une telle beauté. Et effectivement, il aimait aussi bien à Londres qu'à Paris, que dans les souks en Turquie, partout lors de ses tournées, faire les vitrines. Et très souvent, il dansait en pensant à une armoire qu'il avait vue dans la nuit et il allait la rechercher juste après. Donc vraiment, il était habité de cela autant que de sa danse. Et dans cette maison sur cette île en Italie qu'il a recouvert d'azulejos qu'il allait lui-même chercher à Séville et qu'il rapportait. Donc je ne sais pas si vous imaginez le nombre de, parce qu'il voyageait à travers le monde entier pour danser des ballets à chaque fois différents, et toujours avec la même rigueur, la même exactitude. Il le dit, et je lui fais dire de manière un petit peu rapide, mais son corps lui dictait beaucoup de caprices, mais tous les matins, il était à la barre à 10 heures. Rien ne changeait dans sa vie, dans son exigence. Et à ce propos, et sans doute terminerai-je avec cette anecdote, mais qui, je crois, en dit long. Charles Jude racontait que ce qui était justement cette rigueur et cette exigence, puisque, comme vous le savez, Rudolf Nureyev a pris la direction de l'Opéra de Paris, et il avait ses danseurs, et ceux qui ont su cerner le personnage et qui se sont portés disponibles pour recevoir son enseignement, ont reçu cette notion d'exigence. Et lorsque Rudolf Nureyev était à Vienne pour le ballet de Lorenzia, ou Raimonda, pardon, il s'est avéré qu'il s'est blessé. Et Charles Jude ne faisait pas partie de la troupe à ce moment-là, mais Rudolf l'appelle en lui disant « Écoute Charles, il faut que tu viennes absolument, parce que là, je ne peux pas danser. » C'était le jour même, à Vienne. Charles n'était pas à Paris, il était à la campagne, donc l'agent appelle en disant « Charles, là, il faut que tu viennes, tu passes, tu prends les costumes, l'avion, clac, clac. » Donc Charles n'avait même pas répété sa partie. Il prend l'avion, des motards l'attendent à l'aéroport, l'emmènent directement. Je mets entre parenthèses que fort heureusement, l'entrée du rôle n'était pas au premier acte, ce qui a permis que le ballet puisse commencer et que Charles Jude puisse arriver. Il enfile le costume, il ne connaissait pas la partenaire, d'accord, il ne connaissait pas la salle, il ne connaissait pas la partenaire. Il arrive, rien qu'en appliquant à la lettre les espaces, les pas, au centimètre près de ce que Rudolf Nureyev lui avait transmis, il a engagé sa partie et tout s'est passé admirablement bien, grâce à Rudolf Nureyev et au talent de Charles Jude. C'était Rudolf Nureyev.
Merci. Merci Marianne. Alors, Marianne nous a emmenés dans un voyage incroyable. On n'a pas toute la vie là. On peut encore rester une heure, mais je crois qu'on ne peut pas. Donc, c'était super intéressant, extraordinaire. Et on est obligé de s'arrêter là. Mais vous avez tous ces livres et vous avez.
Je prends
une
mon
catastrophe.
Micro. Je prends mon micro. Le carton des livres de Nureyev n'est pas arrivé. Mais vous savez, l'art du spectacle, c'est dans l'instant. Alors, n'oubliez pas de l'acheter, ce livre, mais c'est pas grave pour aujourd'hui. Il y a Maria Callas et puis tous les autres qui apportent aussi la musique. C'est une autre histoire, mais voilà, c'est comme ça. Je ne peux rien, je suis désolée.
Alors, même si le temps est un peu court, là, peut-être que vous avez des questions à poser à Marianne.
Absolument,
pendant qu'elle est là. Profitons de sa présence et de tout ce que vous pourrez lui demander. Mais pour parler, je vous passe le micro, si j'arrive jusque là-bas.
Bonjour Catherine Rupp, merci pour cette présentation passionnante. Comment vous, j'ai une question, donc je voulais savoir comment est-ce que vous plongez dans l'univers de Maria Callas, de Nureyev. Parce que c'est littéralement se plonger dans un univers pendant des semaines, des mois. Je suppose que vous regardez tout ce qui est disponible sur Internet. Vous conduisez aussi des interviews. Voilà, je suis très curieuse de savoir comment vous plongez dans cet univers.
Je lis tout. j'écoute tout, je regarde tout, et ensuite je ferme et je ne le regarde que lui quand il ne parle pas. En tous les cas, pour Rudolf Nureyev, mais même pour Maria Callas. En fait, beaucoup de gens parlent au sujet des artistes, mais eux ne parlent pas forcément beaucoup. Donc en fait, il faut à un moment donné faire fi de ce que les gens disent, parce que c'est leur vision, c'est ce qu'ils ont envie de retenir. Mais regarder les regards de Nureyev, la manière dont il regarde les autres, la manière dont il répète quelques mots. Je ne peux pas avoir la prétention de dire que c'est un travail de psychanalyse, mais presque. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un moment où il faut tout arrêter et repartir évidemment vers l'enfance et décrypter, parce que il est raconté, il est dit. Rudolf a une cicatrice ici, au-dessus de la lèvre. Et un jour, il a tenu tête en fait à son père en disant « Écoute, moi j'ai envie de danser, je m'en vais ». Il franchissait le pas de la porte et son père était un peu saoul et a cassé une bouteille de vodka et lui a envoyé à la figure. Donc, je crois que quand un enfant vit une scène comme celle-ci pour affirmer un choix de vie, ça en dit beaucoup sur tout le reste. Sur les thermos envoyés dans les miroirs de la salle de danse, sur le caractère difficile. Donc c'est toute cette lecture qui, sortie du factuel, en fait, nous parle de l'être. Donc il faut aller très très en profondeur, puisque je disais effectivement que ce jeu est fragile. Il ne faut pas le trahir. Et lorsque j'ai envoyé le texte à Charles Jude, j'avais très très peur. J'avais vraiment très peur d'avoir dit un mot qui soit peut-être un peu trop fort ou qui aurait même tant soit peu déplacé la ligne. Et il m'a dit en retour, vous avez écrit ce que seuls ses amis et sa famille savaient. Donc voilà, il faut tout arrêter à un moment donné et complètement se retirer et retirer les autres. Voilà.
C'est juste d'abord vous remercier et aussi je n'ai jamais écouté encore ces podcasts, je vais donc m'empresser de le faire. Je voulais simplement une petite question pratique, ça dure combien de temps un podcast?
Alors justement, 10 minutes.
10 minutes, voilà.
Donc je crois que Nureyev a 8 épisodes,
oui.
Donc chacun dure 10 minutes. D'accord. Vous n'êtes pas obligé de les écouter tous en même temps.
Alors.
Donc voilà.
Merci beaucoup.
Mais merci à vous.
Le rapport entre le podcast qui est sonore et le livre qui est visuel, est-ce que c'est...
Il y a des précisions, il y a plus de textes en fait dans le Nureyev. Il y a aussi beaucoup de photos, des photos de lui dans toutes ses chorégraphies, d'Eric Brune, de son enfance. Il y a tout cet apport de visuel qui nous replonge dans le fameux Mick Jagger que vous avez vu et ces décors de Roland Petit où effectivement il y a une énorme bouche sur scène dans laquelle Rudolf doit plonger et qui sont les lèvres de Mick Jagger qui avait évidemment quelques intentions mais ça n'a pas abouti, vous avez pu l'entendre. Donc le livre apporte tout ce contenu visuel qui permet d'aller plus loin. Voilà.
Allez, la dernière question.
Bonjour Marie Roch, merci beaucoup pour cette intervention. Ma question va être un petit peu plus axée sur la danse, donc peut-être que vous allez pouvoir m'éclairer, mais quel est pour vous l'avenir de Nureyev aujourd'hui, avec le départ de Charles Jude de Bordeaux, le changement de direction à Paris de l'Opéra. Comment vous, avec les éléments que vous avez explorés...
C'est une excellente question. C'est une excellente question parce que, aussi bien en discutant avec Elisabeth Platel, qui elle était déjà danseuse étoile lorsque Rudolf Nureyev est arrivé, mais qui a été danseuse auprès de lui et qui a parfaitement su gérer le caractère et la relation avec Rudolf Nureyev, toutes ces dernières années ont été très compliquées parce qu'Aurélie Dupont. En fait, ne faisait pas appel à eux. La transmission des chorégraphies, c'est quelque chose de très délicat et il faut faire appel aux chorégraphes qui ont connu, qui ont dansé. C'est une transmission vraiment de main à main. Et la direction de l'Opéra de Paris est un poste extrêmement politique et qui ne souhaitait pas qui ne souhaitait pas avoir cette ombre. Donc, lorsque vous avez pu voir les dernières chorégraphies annoncées comme celles de Rudolf Nureyev, elles ne sont pas si exactes que cela. La seule façon qu'elles soient exactes, c'est effectivement d'inviter les danseurs qui ont dansé, tels Charles Jude, Elisabeth Platel. Et pour eux, c'est excessivement triste parce qu'ils ont le sentiment que ce patrimoine est en train de se perdre. Alors, peut-on souhaiter que ce changement de direction apporte la vérité sur scène? Ce n'est pas à moi de dire, je n'en sais rien. Je ne fais que reporter des propos, mais la question est fine, est juste et préoccupante. C'est pour cela que la transmission est fondamentale. C'est la transmission d'une passion, mais la transmission aussi d'un savoir, d'une exigence de vérité, et non pas juste du plaisir de voir. L'exigence de vérité. Et si le public avait cette exigence de vérité, sans doute qu'on obtiendrait d'avoir des chorégraphies qui soient exactes. Donc, vous avez le droit de siffler.
Je crois que ça ne sera pas le cas, en fait, après cette rencontre. Merci beaucoup à Marianne Bourche.